Bonjour le monde, aujourd'hui édition 2009. Thierry Boston et les sociétés, je conseille qui par l'Afrique du Sud les protents de patents aujourd'hui à l'île législative et régionalière. Ils pensent qu'en dehors des activités dans la région de Dilemans, c'est Gère, les agents d'hier et Peter. A venir encore avec quelqu'un sur le serveur du Ruitier. Président de la pause de la concours sur le site, monsieur le Nuit-Gagnon, et voici le président de la présence de la Stolle, Noir Sport, Mulé Vestin. La visite annonce le jeudi première tendance des législatives régionales, l'État est prévu pour nous, pensant à ce qui est une congrès à la Vitalaï, ou à garder sur la corruption de la pauvreté. L'intelligence car on est émis sur les villes, comme c'était la session nationalité, après le rêve d'État, le 20 mai, sur l'État, on sera supérieur. Et là, ils se prêteront pour avoir tout le service, c'est pas quelque chose. Et on se met sur les activités de la Vitalaï, et le mardi, tu as l'air de l'église de lui, le pont de l'Aïe.
En même temps, toutes les missions, la zone de l'Aïe et Douala, on juge l'ordre, selon le nom. Ici, un bourdon de Kyotion dans le camp de Tabarbareille et sont repartis avec deux véhicules sans faire de victimes. Le 2 mai, le même scénario s'est produit à Ouitabongou, dans le département de Wallam, obligeant Médecins sans frontières à suspendre une partie de ses opérations. Les responsables humanitaires de l'ONU au Burkina, au Mali et au Niger s'inquiètent de la montée de l'insécurité dans le Sahel. En avril, plus de 150 incidents violents ont fait plus de 300 morts. 330 000 déplacés internes sont venus s'ajouter à quelques 100 000 réfugiés. Les organisations humanitaires ont lancé un appel pour obtenir 600 millions de dollars afin d'aider 3,7 millions de personnes, mais jusque-là n'ont reçu que 20% de cette somme.
La mission de l'ONU en Centrafrique se dit préoccupée par les violations commises dans l'ouest de ce pays par un des groupes armés signataires de l'accord de paix Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué publié hier, la MINUSCA fait état d'une récurrence des violations du droit humanitaire commises par le Front démocratique du peuple centrafricain dans la préfecture de la Nana Mambéré. La mission rappelle aux leaders du FDPC que ces actes constituent des violations graves du droit international humanitaire et sont contraires à leur engagement dans le cadre de l'accord de paix dont ils sont signataires. Le mois dernier, des éléments de ce groupe armé ont attaqué un village de l'Ouest où ils ont enlevé 3 personnes, incendié 2 véhicules ainsi que 2 motos et maintiennent 2 des victimes toujours en captivité, a expliqué la MINUSCA. Début avril, une opération militaire avait été lancée par la MINUSCA contre ce groupe implanté localement mais sans influence nationale. L'ONU reprochait au groupe armé d'avoir érigé des barricades sur la seule route permettant d'approvisionner Bangui depuis le Cameroun. Le FDPC dénonçait ce qu'il considérait comme un non-respect de l'accord dans la formation du gouvernement.
Un préfet et un journaliste malien enlevés en 2018 dans le centre du Mali et libérés en février l'ont été en échange de 18 djihadistes dont un condamné en août 2017 à 10 ans de prison. C'est ce qu'a appris hier l'AFP de sources concordantes. Le gouvernement malien avait annoncé le 19 février, sans autre précision, la libération du préfet de Tenenkou, Makan Doumbia, et du journaliste Issiaka Tamboura, disant que c'était le fruit d'un long processus initié pour préserver leur vie. Les États-Unis ont exhorté hier les chefs militaires soudanais à parvenir en accord avec les manifestants qui menacent de lancer un mouvement national de désobéissance près d'un mois après la chute d'Omar al-Béchir si les généraux retardent le transfert du pouvoir à une autorité civile. Le numéro 2 du département d'État américain, John Sullivan, a eu à ce sujet une conversation téléphonique avec le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire de transition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a imposé hier de nouvelles sanctions contre l'Iran, quelques heures après que son homologue Hassan Rouhani a annoncé que Téhéran se retirait de certaines parties de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 avec 6 grandes puissances. Les nouvelles sanctions portent sur les exportations de métaux, acier, aluminium, cuivre et fer, qui constituent d'importantes sources de revenus pour les Iraniens. Les sanctions sur le pétrole iranien, la principale source de revenus de la République islamique, ont eu un effet dévastateur sur son économie. Les tensions entre Washington et Téhéran se sont accrues ces derniers jours. Le Pentagone a envoyé un porte-avions et des bombardiers B-52 dans la région, accusant l'Iran de menacer les forces américaines et de préparer des attaques imminentes. Par ailleurs, le président Donald Trump a affirmé hier que les négociateurs chinois viennent à Washington pour, je cite, « nouer un accord commercial », tout en réitérant sa menace de nouveaux tarifs douaniers qui pourraient donner lieu à des représailles chinoises. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La Chine nous a informé que le vice-premier ministre Liu Xi vient aux États-Unis pour nouer un accord, a assuré hier le président américain. Les tractations doivent se tenir jeudi et vendredi à Washington. Pourtant, lundi, le négociateur américain Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a révélé que Pékin avait fait marche arrière sur certains engagements. Washington avait menacé de taxer toutes les importations chinoises si le géant asiatique ne transige pas. Si les droits de douane supplémentaires étaient imposés, la Chine n'aura guère d'autre choix que de prendre les contre-mesures, a prévenu un porte-parole du ministère chinois du Commerce. Outre la réduction du déficit avec la Chine, l'administration Trump exige que Pékin ouvre davantage son marché, cesse les transferts forcés de technologies américaines ou ses subventions aux entreprises publiques.
Et en politique intérieure, l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 a secoué hier Washington avec trois développements à Albertson.
Il s'agit de l'annonce surprise de la convocation du fils aîné du président Donald Trump par la commission du renseignement du Sénat, sous contrôle républicain, du premier vote dirigé, selon des lignes partisanes, contre un de ses ministres, celui de la justice, William Barr, accusé par la commission judiciaire de la Chambre basse d'entraver les pouvoirs d'investigation du Congrès, et du refus inédit de la Maison-Blanche de livrer certaines informations sensibles en usant de ce qu'on appelle le privilège de l'exécutif. Nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle, a tenu Jerry Nadler, le chef démocrate de la puissante commission judiciaire, après le vote contre M. Barr. La faute du ministre de la Justice, son refus de livrer à la commission la version complète du rapport d'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe. Du pur théâtre politique, a rétorqué le ministère de la Justice.
Au Venezuela, le régime du président Nicolas Maduro a accéléré hier la répression contre les auteurs de la tentative de soulèvement du 30 avril, avec l'arrestation du bras droit du président autoproclamé, l'opposant Juan Guaido, et l'inculpation de nouveaux députés. La Cour suprême, que l'opposition a acquise d'être à la solde de M. Maduro, a inculpé de haute trahison, conspiration et rébellion civile, trois nouveaux députés d'opposition portant à 10 le nombre d'élus poursuivis pour leur soutien à la tentative d'insurrection menée par M. Guaido. L'un de ces 10 députés, Edgar Zambrano, bras droit de M. Guaido, est le vice-président de l'Assemblée nationale. Dans un tweet, M. Guaido a dénoncé ce qu'il a appelé l'enlèvement de ce vice-président et avertit que le régime échouera dans ses tentatives de mettre en pièces le pouvoir qui représente, je cite, « tous les Vénézuéliens ».
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Gabon, disparition de centaines de conteneurs d'environ 5000 mètres cubes de Kevasingo, un bois précieux interdit d'exploitation, saisi fin février et début mars au port d'Owendo à Libreville dans deux sites des Chinois. Le quotidien L'Union écrit que les 353 conteneurs de bois frauduleux étaient pourtant placés sous le contrôle de la justice. Selon le procureur de la République, les agents du ministère des Eaux et Forêts ont sciemment déplacé les conteneurs aux fins d'exportation frauduleuse. Il assure que toutes les personnes impliquées seront poursuivies, quel que soit leur rang et grade. La RDC lance un appel à manifestation d'intérêt pour un projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement congolais a obtenu de la Banque mondiale un crédit pour financer ce projet dont la mise en œuvre durera 5 ans de 2019 à 2023. L'objectif est de développer le secteur privé. Les ONG, groupements communautaires, firmes ou cabinets de consultants intéressés par l'initiative sont invités à manifester leur intérêt. Terminons avec la Zambie où la production de maïs devrait baisser de 16% à environ 2 millions de tonnes cette année contre 2,39 millions de tonnes l'année dernière. D'après le ministre de la Culture, Michael Katombo, la production de maïs réduite était en grande partie due à un temps sec prolongé. Mais le pays dispose de stocks de maïs suffisants pour couvrir ses besoins.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tottenham rejoint Liverpool en finale de la Ligue des Champions.
Oui, Tottenham se paye aussi un comeback incroyable. Les Spurs, qui avaient 3 buts à remonter à 35 minutes de la fin de leur demi-finale retour à Amsterdam contre l'Ajax, ont arraché leur qualification à la dernière minute 3-2 grâce à un triplé de Lucas Moura, battu 1-0 à Londres 8 jours plus tôt et mené 2-0 à la Johan Cruyff Arena après 36 minutes. Les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont remis à un homme providentiel, Moura, auteur du but de qualification à la 6e minute du temps additionnel pour propulser son équipe vers la première finale de son histoire, le 1er juin au Stade Metropolitano de Madrid.
On connaîtra les finalistes de la Ligue Europa ce soir.
Oui, après sa victoire 3-1 face à Valence, Arsenal doit finir le travail en Espagne. En plus de leur avantage comptable, les Gunners seront d'autant plus motivés qu'une victoire en Ligue Europa représente leur meilleure chance d'accéder à la Ligue des Champions l'an prochain. En championnat, les Londoniens sont en effet distancés de 3 points par Tottenham dans la bataille pour la dernière place qualificative pour la C1 à une journée de la fin. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea partira avec un petit avantage du fait du but inscrit à l'aller sur le terrain de Francfort.
Au Ghana, fin de la grève des arbitres.
Oui, les arbitres ghanéens ont décidé de lever le mot d'ordre de grève en vigueur après avoir rencontré le ministre en charge des sports. Le ministre des sports a promis de s'investir personnellement pour les faire rentrer dans leurs droits dans un bref délai. Les arbitres avaient pris lundi la décision de boycotter les compétitions organisées par le comité de normalisation du football. Ils réclament le paiement d'arriérés d'émoluments de la phase aller du championnat avant la reprise de la phase retour prévue pour cette semaine.
Sepp Blatter menace de poursuivre la FIFA en justice.
L'ancien patron de la FIFA a affirmé qu'il avait l'intention de poursuivre l'instance dirigeante du football mondial et son président actuel Gianni Infantino pour avoir diffusé de fausses informations et porté atteinte à sa réputation. Sepp Blatter est suspendu depuis 2015 en pleine FIFA Gate, un gigantesque scandale de corruption au sein de l'instance dirigeante du football. Il a soutenu que les informations et les différentes déclarations de la FIFA à propos de ses revenus sont fausses et ont donc porté atteinte à sa réputation. Il a notamment contesté les allégations selon lesquelles, à la suite de la Coupe du Monde Brésil 2014, il aurait reçu une prime d'environ 10,5 millions d'euros. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats des matchs numéro 5 en demi-finale des playoffs.
Milwaukee s'est qualifié pour la finale de la conférence Est en battant Boston sur le score sans appel de 116 à 91. Les Bucks se sont imposés 4-1 face aux Celtics. Ils disputeront leur première finale de conférence depuis 2000 face à Toronto ou à Philadelphie. En conférence Ouest, Golden State, champion en titre, a battu Houston 104 à 99 et mène la série 3-2.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Sud-Africains se sont rendus hier aux urnes pour des élections législatives et régionales. La commission électorale doit publier dès aujourd'hui les premières tendances. Le futur président élu par les 400 députés sera investi le 25 mai. Eric Manira Kidza a joint à Pretoria l'analyste politique Kofi Kwaku.
L'enjeu le plus important, c'est de savoir qui va diriger le futur de l'Afrique du Sud. Il y a de très fortes chances que l'ANC va sûrement rester au pouvoir, mais ce qui n'est pas très sûr, c'est le contentement général de la population sud-africaine, à savoir si leur vie change, surtout au niveau d'un certain nombre de critères, sur par exemple le chômage, la pauvreté, les inégalités, les crimes, et puis surtout, la corruption. Que ce soit les Sud-Africains moyens ou pauvres en général, sont très inquiets au niveau de ce futur. C'est pas seulement que l'ANC va gagner, mais le plus important, c'est de voir si la qualité de la vie et le niveau de vie des Sud-Africains vont changer après ces élections. C'est ça l'enjeu le plus important.
Le président Ramaphosa a promis une nouvelle aube. Est-ce qu'il aura la tâche facile pour relancer l'économie et nettoyer l'état de la corruption?
Pas du tout. Ce ne sera pas aussi facile. Même avec cette nouvelle donne que les sondages prédisent, Il y a peut-être même de fortes chances que l'ANC n'ait pas vraiment une majorité très forte, parce que les choses ne sont pas aussi claires que possible. On attend quand même de savoir, de voir un peu plus clair si l'ANC aura cette majorité. Mais si c'est Ramaphosa qui est le nouveau président, il peut mettre en place un système de gouvernance qui permettra de relancer l'Afrique du Sud, peut-être dans les deux ou trois années qui arrivent. Il pourra le réussir si d'aventure, il a autour de lui, s'il se fait entourer de gens techniquement compétents qui comprennent le monde moderne, parce qu'il y a aussi ça, et qui ne se lance pas dans les questions d'idéologie, qui reste très pragmatique, qui comprennent que la valeur économique d'un pays est quelque chose qu'il faut continuellement renforcer. Donc il a encore, pas seulement beaucoup à faire, mais beaucoup à prouver.
L'ANC joue effectivement sur sa crédibilité, mais on sait que le parti est divisé, le camp Dlamini Zuma, qui se positionne aussi. Est-ce que les 5 prochaines années pourront permettre justement au pays arc-en-ciel de se relever?
Pas vraiment. L'évidence montre que les fractures internes de l'ANC ne lui permettent pas vraiment de diriger à fond efficacement un pays aussi complexe et moderne que l'Afrique du Sud. Mais il y a de très fortes chances, parce que maintenant il y a ce qu'on appelle, il y a une lumière qui vient juste de s'allumer dans la tête des responsables de l'ANC. On espère que cette lumière va leur permettre de prendre des décisions très importantes pour réformer pas seulement l'économie, mais l'État, et ensuite réformer aussi ceux qui sont responsables des grands projets en Afrique du Sud pour permettre au pays d'avancer rapidement. Et ça, ça va prendre beaucoup de temps, au moins 3 ans. Donc en 5 ans, on pourra peut-être voir les résultats en 5 ans, mais il ne faut pas être trop optimiste, il faut être juste pragmatique.
Kofi Kwaku, analyste politique, joint à Pretoria.
Morgane Guiriec, en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, les élections générales en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel doit élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales mercredi. Le président Cyril Ramaphosa a de grandes chances d'être reconduit car la victoire de l'ANC, parti qui a mis fin à l'apartheid, est quasi assurée. Mais les défis auxquels devront faire face les vainqueurs sont de taille. L'économie sud-africaine se porte mal, le chômage dépasse les 27% et les inégalités sont parmi les plus criantes au monde. Au plan politique, l'ANC, déjà fragilisée par des scandales de corruption, est divisée. On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Au Burundi, le journaliste Claude Nshimirimana est loin d'être fixé sur son sort après sa libération mercredi. Il avait été arrêté dimanche sous l'accusation de participation à une réunion clandestine. Son interpellation avait été dénoncée par la Fédération internationale des journalistes et l'Union des journalistes burundais. Timothée Donangma a joint à Kigali au Rwanda le président de l'Union des journalistes burundais, Alexandre Niyungeko.
Ce qui est très surprenant, je dirais même fantaisiste, comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un de participation à une réunion clandestine alors qu'il fait du sport en pleine nuit, en pleine journée. Et donc c'est vraiment une préoccupation pour l'Union burundaise des journalistes d'avoir ce traitement imposé à notre confrère qui a passé tout le week-end, même jusque donc ce mec qui a été libéré.
Quelle est la suite de cette affaire au plan judiciaire?
Il a été libéré, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui était derrière l'arrestation, quand on sait bien le traitement aujourd'hui qui est imposé à nos confrères au Burundi. On ne pourrait pas dire que maintenant tout est terminé. Je crois qu'il faudrait rester interpellé par rapport à cette situation de notre confrère et surtout voir qu'ils ne subissent pas, par exemple, un enlèvement comme d'autres l'ont été de par le passé ou d'autres traitements qui peuvent attenter à sa vie. Et vraiment, là, nous sommes préoccupés.
Comment s'expliquent les difficultés qu'éprouvent les journalistes au Burundi ces temps-ci?
Cela est en rapport avec la situation politique que le Burundi vit actuellement, surtout quand il y a des rendez-vous, notamment le rendez-vous des élections de 2020. Nous sommes à quelques mois ou presque une année de ces élections. Comme vous l'avez constaté de par le passé, la BBC et la VOA avaient été suspendues l'année dernière pour 6 mois, à quelques jours du référendum qui était organisé par Bujumbura en mai 2018. Et donc, nous constatons aujourd'hui que la pression qui est faite sur les journalistes est en rapport avec le contexte électoral en vue. Et surtout, quand on constate aussi le traitement qui est infligé aux opposants, notamment les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa, mais aussi d'autres partis de l'opposition qui sont vraiment persécutés, arrêtés et même tués au grand jour, dont on retrouve les corps flottant dans les rivières ou dans les rues. Et donc, cette situation, c'est pour effectivement qu'il n'y ait pas de témoins gênants, il n'y ait pas des yeux des journalistes pour voir ce qui se trame là-bas et surtout que le pouvoir de Bujumbura ou le pouvoir du CNDD-FDD n'a pas l'intention d'organiser un processus électoral transparent auquel participeraient les journalistes qui rapporteraient au quotidien les violations dont sont victimes les opposants et d'autres membres de la société civile burundaise.
Alexandre Niyungeko, président de l'Union des journalistes burundais, joint à Kigali, au Rwanda.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'augmentation du nombre de personnes touchées par l'épidémie d'Ebola inquiète. Les attaques répétées contre les centres de traitement et le récent assassinat d'un médecin ont causé un ralentissement des activités de riposte. La maladie a déjà fait plus de 1000 morts depuis le mois d'août dernier dans la région nord-est de Beni. Eddie Isango a joint dans le Nord Kivu le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, le docteur Jean-Jacques Muyembe.
Ça nous inquiète beaucoup, cet accroissement de nombre de cas. Cela est dû, entre autres, au fait qu'il y a beaucoup de périodes d'insécurité. Chaque fois qu'il y a une période d'insécurité, donc on arrête les activités de riposte. Les chaînes de transmission, alors, restent présentes et même ça augmente parce qu'on a arrêté donc les activités de riposte. Il y a d'autres raisons, mais je crois que ça, c'est la raison principale qui fait que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au cours de cette épidémie.
Quelles sont les autres raisons alors?
Il y a une faiblesse dans la surveillance, mais le boulot d'étranglement, c'est surtout le fait que la communauté n'est pas totalement engagée, ne s'est pas appropriée cette lutte. C'est là vraiment le boulot d'étranglement principal.
On a connu plus de 10 épidémies déjà en RDC, Ebola, et cette fois-ci, par rapport aux autres fois, on bénéficie du vaccin. Mais qu'est-ce qui fait que malgré les vaccins, ce nombre continue toujours à s'accroître?
C'est là aussi l'erreur. C'est que les gens croient que c'est le vaccin qui va arrêter les. Le vaccin n'est qu'un outil secondaire pour lutter contre Ebola. Nous l'avons toujours fait. À l'époque, donc, on vous dit que nous sommes à notre 10e épidémie. Les 8 épidémies antérieures, on n'avait pas les vaccins, mais on parvenait, n'est-ce pas, à vaincre vite cette épidémie en utilisant simplement les mesures de santé de base. C'est ça qui est le plus important. Donc, lavage des mains, précaution pour les cérémonies funéraires, isolement des malades, c'est ça qui est le plus important. Donc, détecter de contact, suivre le contact, c'est ça qui est le plus important. Le vaccin s'ajoute, mais le vaccin ne va pas remplacer ces techniques, ces méthodes de base qui sont les méthodes simples de santé publique.
Mais justement, l'OMS demande que l'on puisse augmenter le nombre de vaccins.
Bon, le nombre de vaccins, c'est-à-dire il y a toujours le vaccin RVSV de Merck, mais ce vaccin a cette indication. On respecte cette indication-là. C'est donc faire une vaccination en ceinture. Mais nous avons besoin d'un autre vaccin qui est un peu plus large. C'est ça qu'on va utiliser dans les jours à venir.
Vous êtes à la tête d'une institution qui a mis sur pied aussi un vaccin. Et ce vaccin-là est utilisé. Qu'en est-il de son efficacité?
Mon institution a contribué à la mise en place d'une molécule pour traiter les malades. Ce n'est pas un vaccin, mais c'est comme un médicament. Quand nous utilisons déjà sur le terrain, il y a beaucoup de malades qui sont guéris en recevant donc ces molécules. Et il y a encore d'autres molécules comme les IMAP, les Regeneron et tout ça, que nous utilisons sur place. Alors, c'est comme ça que vous voyez aussi que le taux de mortalité par rapport aux épidémies antérieures tourne autour de 60%, 62%. Alors que dans les épidémies antérieures, on atteignait facilement 70%, 80% de mortalité.
Joint dans le Nord Kivu, en RDC, le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, le docteur Jean-Jacques Muyembe.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le maire de Ouagadougou a signé hier un arrêté pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules poids lourds dans la capitale. Cette décision intervient après plusieurs accidents impliquant des camions. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
à Ouagadougou circulent aux heures de pointe relèvent d'un véritable casse-tête chinois. Poids lourds, poids légers, mobilettes, bicyclettes, tricycles, charrettes et même parfois animaux. Tous se retrouvent sur les mêmes voies. Deux élèves ont été écrasés il y a quelques semaines.
C'est elle-même qui va circuler, vraiment, je m'inquiète beaucoup.
Fatima Taouedraogo, devant le lycée Marienne Gouabi, est venue elle-même chercher son enfant à la sortie des classes.
Avec les gros camions, eux n'ont pas de freins, n'ont qu'à arranger leurs freins, n'ont qu'à donner l'air des élèves et l'air des camions, ça ne peut pas être les mêmes choses. Les enfants, bon, eux sont pressés pour aller à l'école.
C'est le même sentiment que partage Abdoulaye Kabore, enseignant et parent d'élèves.
Le tout doit prendre leurs responsabilités. Hein. Voilà, essayer d'interdire au moins les camions de circuler à des heures de trafic.
Et pourtant, depuis 1989, la loi interdit la circulation des véhicules poids lourds aux heures de pointe dans la ville. Les chauffeurs sont bien conscients de l'existence de cette disposition.
Nous voyons vraiment l'enjeu des gros porteurs en ville.
Brahima Rabo, président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina.
À des heures données, un chauffeur étant sur le volant, tu te débrouilles pour arriver au lieu dont tu veux. Très souvent aussi qu'avec la douane, on a des problèmes. Quand un chauffeur quand même quitte le rang interne, même si ça sonne l'attente à 23h, il part en ville, il ne peut même pas faire le déchargement de la nuit. Il faut encore le donner en ville pour décharger peut-être le matin et encore attendre la ville pour le quitter encore la nuit.
Le maire de Ouagadougou estime qu'il faut réadapter les textes qui durent depuis 30 ans.
Ce texte date de 1989. De 89 à aujourd'hui, la ville elle a évolué.
Armand Bewende.
Nous sommes en train de relire les textes qui encadrent d'abord la circulation à Ouagadougou. Et nous sommes venus trouver que c'est ce texte qui régissait. Et les policiers ne pouvaient pas agir parce que les voies et les horaires sur lesquels ce texte agissent n'ont pas d'effet.
Aussi, il y a l'incivisme, cause de nombreux accidents. Et là, même les élèves en font partie.
Les élèves aussi circulent mal.
Wenlacida Guirou, élève.
Se comportent pas comme des responsables en circulation. Nous ne laissons pas les faits tricolores. Nous devons les voir. Maintenant, j'invite à la population de donner l'opportunité aux élèves de passer souvent parce qu'ils sont pressés.
Le maire appelle à plus de civisme. Arma Bewende.
On va réguler la circulation des camions dans la ville. Mais cela seul ne suffit pas pour arrêter les accidents. Il faut que nous, les usagers, vous et moi, chacun apprenne à respecter le code de la route. Donc c'est là le problème.
En attendant, l'indignation des populations semble avoir porté fruit. Hier, le maire de Ouagadougou a signé un arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules poids lourds. La circulation de ces véhicules n'est désormais autorisée qu'entre 22h et 5h du matin sur un certain nombre d'axes routiers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.